Manif, la manif pop, manif sur moi-même. Manif, la manif pop, manif sur moi-même. Alors je cassais tout ce qui était construit. Je pensais comme les autres, mais je ne comprenais pas. J'étais un mouton, parce que tout était comme ça. S'ils le font, c'est du mal sa femme. Manif, la manif pop, manif sur soi-même. Manif, la manif pop, manif sur soi-même. Maintenant tout est détruit, et on ne se pose pas de questions. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que c'est notre droit. Comment faire pour revenir comme c'était avant? C'est trop tard, non! Parce qu'on ne se pose plus de questions. Manif, la manif pop, manif sur soi-même. Manif, la manif pop, manif sur soi-même. On brûle la barge russe en mangeant des bonbons. Elle te conditionnera pour que tu ne comprennes pas. Écoute Jet FM, la radio qui ne ment pas. Ah, et sa vérité, c'est celle qui est cachée. Wild world, wild world, wild world, wild on my own. Wild world, wild world, wild world, wild on my own.
Bon alors bienvenue, alors aujourd'hui c'est la barge russe numéro 885, entretien réincarnation. Avec aujourd'hui mon invité spécial, comme souvent il est présent, c'est Monsieur UFO. Et pour cette barge russe, Monsieur UFO, cette fois on inverse les rôles. Je vais être l'interviewé, je suis l'invité de Monsieur UFO. Monsieur UFO, tadam, c'est à vous.
Bonjour Helmut.
Bonjour.
Alors, vous m'avez invité à présenter votre émission. dont le sujet est les vies antérieures.
Oui.
Vies antérieures.
Oui, la réincarnation, oui. Résurrection, peut-être pas, mais réincarnation. Ouais.
Je vous pose la question. Lorsque vous êtes intéressé au cours de toutes vos émissions depuis des années sur l'invisible,
oui.
Comment en êtes-vous maintenant arrivé à vous intéresser à aux vies antérieures et comment concevez-vous cela?
Bah, les vies antérieures, c'est venu par rapport à des discussions. C'est venu encore plus... avec vous, beaucoup de nombreuses avec vous, notamment avec des lectures. Et là, ça m'a paru, non pas que j'étais fermé à ça, mais ça m'a paru encore plus probable. Et les vies antérieures. Donc j'ai essayé de. Bah, bien sûr, moi-même, j'ai pas d'autre exemple, quoi. Et j'ai essayé de regarder au fond de moi comment... Bon, c'est pas vraiment possible. J'ai pas pu trouver de lien avec quelconque vie antérieure, comme certaines lectures. Je sais plus, on avait parlé tous les deux d'une autrice qui disait « Ah oui, moi j'étais dans la cour de Nefertiti, machin. » Enfin, ça a marché debout, ça. Ça c'est, à mon avis, est complètement tordu, complètement faux. Mais en revanche, comme je l'ai déjà dit une fois dans une barge russe passée, j'ai fait un coma de plusieurs semaines. Et à ce moment-là, je me dis que j'étais quelque part et j'ai justement dans l'invisible et j'en suis quasiment sûr, mais sans avoir de preuves, j'ai dû rencontrer beaucoup d'esprits, beaucoup d'âmes. Qu'elle soit morte ou vivante, je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de rencontres qui ont, à mon avis, été très très fructueuses pour que je puisse avoir être en mesure de donner les émissions, les quotidiennes barges russes que je fais. Vous avez dit que je m'intéresse à l'invisible depuis longtemps. Il y a pas de hasard. Il y a tout ça, c'est avec toutes mes lectures, vraiment, je me dis, là je suis en train de lire Philippe K. Dick, son exégèse numéro 1, Il parle de William Burroughs, que j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Il parle de Carl Jung, tous ces mecs-là par rapport à la synchronicité. Je me dis, mais je pense pas qu'il y ait... Enfin, si c'est comme ça, c'est que ça devait pas être autrement. Si je peux me rappeler comment était ma vie avant ce coma, c'était totalement différent. J'étais totalement différent. Et donc, je me dis, et j'en suis sûr, je suis sûr de moi quand je le dis, mais j'ai aucune preuve, qu'il y a forcément des vies antérieures, en tout cas des esprits qui voyagent.
Alors, je vous interromps parce que on a discuté de ça, et puis je vous ai cité un ami à moi qui était un haut dignitaire de la maçonnerie, qui m'a conseillé un jour en disant ce qu'il voulait dire, c'est que pour accomplir le cheminement de son âme, cela prend plusieurs vies.
Oui, c'est ça aussi, oui. Ben oui, parce que je pense que j'interpréterais ça avant d'arriver à même au bout de notre âme, disons, parce que ou pas de notre âme, mais j'en sais rien. En tant que réceptacle des âmes, peut-être que ou alors c'est toujours on est toujours la même âme dans des corps différents, dans des esprits différents, mais jusqu'à afin que notre âme puisse justement atteindre le summum, quoi, sans idées religieuses, le paradis, quoi, l'endroit où on est bien et où on ne veut plus partir. Avant d'arriver là, je pense qu'il y a beaucoup de...
La fin du karma.
Oui, ah bah oui. Ouais, la fin du karma. Oui.
De la survie après la mort. C'est-à-dire ce qu'on voit, par exemple, ce qu'on voit dans les NDE, hein, la vie, enfin, disons, la survivance. Hein.
Oui.
Et donc, est-ce que c'est pour vous aussi un point de départ, puisque vous avez parlé de votre coma et que vous avez découvert à travers lui.
La survivance, vous voulez dire ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a en nous quelque chose d'irréductible, d'immortel, qui survit à la mort physique, à la mort du corps.
Oui, non, ça n'a pas été du tout le point de départ, ça. Hein. C'est plutôt... C'est le point de départ, ça a été peut-être un point noir dans le ciel... en plein milieu de la journée, quoi. C'est ça, je pense que ça a été un point de départ. Et le deuxième point de départ, ça a été des rencontres, notamment la rencontre que j'ai pu faire avec vous-même, alors que j'étais encore à la radio alternante, hein, donc ça remonte, hein, c'est aux années 2000, 2004, 2005 peut-être, qu'on s'est rencontrés. Donc ça fait 20 ans.
2005, oui.
Ouais, je pense que ça fait une vingtaine d'années.
Il y a de plus en plus de gens qui, à la télévision et à la radio, dans certaines radios, racontent leur survivance, c'est-à-dire ils ont survécu à une mort physique constatée, et bon, c'est les NDE, et ils reviennent à la vie, et donc cela suppose autre chose. C'est-à-dire qu'il y a, pour en venir aux vies antérieures, il y a bien deux mondes. Il y a le monde terrestre et l'autre monde,
ouais,
dans lequel évoluent les âmes.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah oui, ben, je pense qu'il y a le côté invisible dans lequel on évolue tout le temps, là. Mais c'est ce côté invisible. Là, je viens de lire, comme je vous disais, Philippe K. Dick, là, son exégèse. Je viens de lire un passage. Il le dit aussi que, enfin, l'illusion. Enfin, il n'emploie pas ces mots-là, mais on vit dans l'illusion, l'illusion matérielle. Je suis vraiment d'accord avec ça. C'est, faut pas. Le monde maintenant peut, pour survivre dans la réalité, s'arrêter au matériel. Or, si à mes yeux, comme aux vôtres et à de nombreuses autres personnes, ça va bien au-delà du matériel. Si on s'arrêtait au matériel, il y aurait des guerres partout. Et après, les guerres qui peuvent se produire là dans le monde en ce moment, ça part pas de produits matériels. Hein. C'est des raisons bien plus. Enfin, oui, c'est des raisons qui vont être
idéologiques,
religieuses, oui. Mais en même temps, derrière, il y a peut-être une raison un peu matérielle, peut-être, au fond, je ne sais pas trop.
Mais je voudrais vous poser une autre question complémentaire. C'est-à-dire que si on considère que l'âme survit au corps, après la mort,
ouais, oui.
Donc on a fait des émissions ensemble, il y a quand même quelque chose de très important, c'est l'incarnation, on y arrive, c'est-à-dire la descente de l'âme dans le corps, l'installation dans le corps, et que éventuellement ses mémoires antérieures.
Ouais, ça c'est plus compliqué. Ouais. Sans faut qu'il s'en rappelle après. Mais oui, là c'est, on a parlé, hein, c'est le, ça questionne peut-être l'esprit avec lequel l'âme était avant.
Voilà.
Si elle était dans un esprit mauvais, l'esprit prochain, j'espère que... Enfin, j'espère...
Il va devoir, en quelque sorte, revivre... Mettons qu'une âme mauvaise descend en haut, et elle va progressivement prendre conscience de sa méchanceté, de sa cruauté.
Ouais. Oui. Oui, c'est ça.
Alors, je suis d'accord avec vous sur les récits mirobolants un peu de réincarnation, de vie antérieure époustouflante.
Hein. Oui, oui. Ça, c'est classique, quoi.
Mais les deux sont liés, c'est-à-dire la descente de l'âme dans le corps et son départ ensuite vers son milieu d'origine, qui est le même d'ailleurs.
Oui. Oui, qui est peut-être qui est caché quand il est dans le corps, le côté invisible, bien sûr, oui. Ouais, je pense comprendre. Après les réincarnations, à mon avis, ça dépend de l'état aussi. Parce que même une bonne âme qui tombe dans un esprit très mauvais, cette fois, à l'inverse de l'exemple que vous venez de donner, une âme mauvaise qui tombe dans un esprit bon, c'est. Ah ouais, mais c'est après je pense qu'il y a tout ce qui entoure justement le corps cette fois. Tu peux avoir un bon esprit, une mauvaise, j'en sais pas. Non, là en fait, j'ai pas trop réfléchi à ça, mais
je voudrais donner un exemple.
Oui.
Nous sommes en période de Noël. Les réincarnations ou des incarnations l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est les rois mages.
Oui.
C'est-à-dire, les rois mages, c'est une illustration de la descente de l'âme dans le corps de Notre-Dame et puis la naissance de Jésus. Hein.
Oui, d'accord.
Il y a tant que vie antérieure, il y a donc les mages avaient une prémonition de cette descente.
Oui.
Et donc aussi par des calculs savants babyloniens, ils avaient déterminé l'endroit et l'heure, etc. de la date.
Hein. Ouais, ça c'est fortiche. Ouais.
Alors donc, là où je veux en venir, c'est que s'il n'y a pas, s'il y a une vie après la mort, et s'il y a une descente de l'âme qui s'incarne, donc à la limite, on pourrait presque dire qu'il n'y a pas de mort.
Oui, exactement. Oui, de l'âme, mais le corps chute et les mémoires avec. Moi, je pense pas qu'il y ait des mémoires qui puissent. Ça me paraît bizarre qu'une personne puisse se rappeler de sa vie passée. Qui que ce soit. Oui, ça l'a déjà vu, ouais.
À Montpellier, par exemple, j'ai vécu là. C'est des petits exemples.
Bon. Ouais, c'est possible, là, ouais, bien sûr. Mais j'entendais plus des souvenirs plus identitaires, quoi. Se rappeler qui on était ou. Ah oui. Ouais.
Bon. Mais ce qu'on peut dire, c'est que j'ai eu des discussions avec des gens de diverses obédiences. Hein.
Oui.
Bon. Et ce qui m'avait frappé, c'est que il n'y avait pas de confiance dans le ciel, c'est-à-dire que je leur ai dit, mais vous faites du ciel et des habitants du ciel, enfin certains diront Dieu, etc., des meurtriers.
Mmh.
Hein, pourquoi ? Parce que ils ne considèrent pas, ils ne réfléchissent pas sur l'immortalité de l'âme.
Oui, et puis, oui, après là, Oui, à propos de ça, oui, j'avais vu de l'immortalité, on met ça sur le dos de Dieu, quand, oh non, mais si Dieu existait, tout ça n'existerait pas. Mais je l'ai déjà dit, je pense, dans mes émissions, si ça arrive, tout ce qui arrive, c'est pas forcément à la faute de Dieu. Je l'avais pris un livre, c'était de Leibniz, métaphysique, un truc de la métaphysique de Leibniz. Il disait, de toute façon, c'est lui qui décide. Après, ce qui doit arriver arrive, mais lui, il se porte pas garant de l'humanité. Dieu, comme ils disent, mais il est là, mais il dit pas, tiens, ben toi tu vas prendre une bastos ce jour-là. Ça va au-delà de ça. Mais si le mec il se prend une bastos, c'est que peut-être avant il a fait autre chose, ou il a tué quelqu'un, ou il a indirectement ou non provoqué le meurtre d'une autre personne, enfin le meurtre ou autre chose, mais de grave quoi. Ça c'est une prise de conscience que j'ai réussi à faire et je suis content de l'avoir faite, mais qui est difficile à faire avaler à des victimes qui ne veulent pas entendre autre chose que oh le pauvre petit. Oui.
C'était presque notre petite Bible
oui.
de l'époque. Hein. Bon. Et donc, parce qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est que les vies antérieures, qu'on soit modeste, simple, humble ou grand seigneur, c'est une participation à la construction de l'histoire.
Bah oui, aussi, oui. Oui.
De la création. Enfin, oui, c'est-à-dire le but final de la création et de notre être même.
Oui, une espèce d'apocalypse, quoi.
Voilà.
Ouais. Une remise à zéro, ouais. Mais sans forcément passer par une catastrophe comme les films hollywoodiens nous le suggèrent assez fréquemment, ouais. Mais déjà, encore depuis mon point de vue, le simple une apocalypse naît au fond de soi lorsque on se pose des questions.
Exact.
On revit. Moi, je me rappelle. Ça fait 20 ans de ça que je me pose des questions parce qu'on me l'a dit. On se ramène vers moi un jour et on m'a dit, Helmut, pose-toi des questions. Et depuis ce jour-là, je me pose des questions. Et j'ai l'impression que à chaque mais comme j'ai dit souvent, c'est pas la paire de chaussures que je vais mettre le matin, la verte, la rouge ou la jaune. Non, c'est plutôt des trucs existentiels. Ah oui, tiens, pourquoi, comment ça se fait que j'ai vu ça à ce moment-là et pourquoi on n'a jamais les réponses, mais on se pose des questions et on avance comme ça. Et à chacune de ces questions, enfin pas à chacune, mais régulièrement arrive un moment où je sens quelque chose au fond de moi qui me dit ah ouais, là ça y est, j'ai avancé, j'ai fait une évolution parce que j'ai compris ça et ça avec toutes ces questions qui s'imbriquent entre elles. Et
c'est le sens de la vie.
Oui,
à mon avis, hein.
Oui. Mais justement, pardon, mais c'est un sens de la vie qui a été, qui est, en parlant au présent, qui est complètement, comment, quel mot employer, effacé par justement l'occidentalisation, le matérialisme, qui dit ah mais non, mais faut pas se poser de questions, faut pas réfléchir, faut pas faire de révolution. Ah ben non, il faut pas, parce que autrement moi ça va me gêner dans mes plans.
Oui, c'est exact.
Mais ça, moi j'en suis sûr, par contre. Mais par contre, moi j'en suis sûr, mais comment faire avaler ça à des personnes, parce que à des gens, c'est pas possible, mais à des personnes, le faire avaler, c'est pas le bon mot, mais l'expliquer, j'y arrive. Mais après, et même l'expliquer, qu'est-ce que ça va changer au fond, ça a une prise de conscience, mais même aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y peut, parce que je lisais dans le journal, c'était à propos des livres, vous savez, ChatGPT. Et ben les mecs, ils utilisent ChatGPT, ils écrivent un livre. Et le truc, ils l'éditent. Ils font éditer. Alors, je sais pas quelle maison d'édition édite ça, mais en tout cas, ils arrivent à mettre ça. Et après, ça, ils mettent ça sur les réseaux, sur Amazon, par exemple. Et après, Amazon, et ben, vend les livres construits par ChatGPT. Donc, c'est une vipère, quoi. Enfin, ça sert à rien. Déjà qu'il y a déjà au moment des comptes d'auteurs, quand tu pouvais, ça fait longtemps ça que ça existe, on peut écrire son livre et se le faire éditer. Il y a des livres sûrement qui sont géniaux, mais il y en a 95-98%, pardon, hein, mais on n'est pas forcément auteur, quoi. Ça peut être un rêve, le mec il voulait sortir un livre, d'accord, super. Mais bon, après, mettre ça, c'est en vente, quoi. Et il suffit que le titre soit accrocheur, appelle une lecture à un lecteur à un moment, et il va l'acheter. En fait, ça va être un... Moi, ça m'est arrivé, hein.
Pour en revenir à...
Pardon. À ChatGPT, ouais. Oh bah oui, complètement. Mais après, oui, les gens, ils construisent ça, mais ça se retourne contre nous, hein. Parce que, ou alors, c'est ce que j'ai dit dans ma dernière barge russe, là, ou dans la prochaine barge russe, j'y réfléchis, ils mettent ça en place, mais ça se trouve, c'est le contrôle, le haut modernisme qui fait ça, afin d'éradiquer la lecture, d'arrêter d'acheter des livres. Eux, ils ont d'autres plans, et c'est eux qui donneront les infos par Internet, par exemple, qui vont contrôler. Ce qui fait qu'on aura pu, vous savez, il y a des auteurs, mais qui sont des années, à mon avis, moi j'aime bien ceux des années 40, 50, jusqu'à 60. Surtout, tous ceux-là, les intellos qui écrivaient à cette période-là, juste après-guerre, avant-guerre, même dans les années 20, 30, hein, du 20e siècle. Mais il y a des pépites, il y a vraiment des pépites. Et donc ces auteurs-là sont rarement réédités. Et pour peu qu'il le soit, ça va être une édition. Et puis, ça, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui déjà, il y a, je sais pas. Si je sais, mais les auteurs qui sortent aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qui sortent dans les années 40, 50. Mais ce qui sort, ça vaut pas tripette. Hein, il y en a. Mais même ceux qui sont pas à compte d'auteur. Hein, ceux qui sont à des grandes maisons d'édition, bon après, moi je m'intéresse pas à tout forcément, mais il y en a, ils sont les mecs, ils arrivent à se faire éditer les trucs, c'est pardonnez-moi, mais c'est minable. Mais depuis mon point de vue, je peux pas parler, c'est minable. Non, depuis mon point de vue, je trouve ça minable. Voilà, c'est ça que je dois dire, donc je le dis. Oui, ben voilà, ben c'est ça. Dans le journal Le Monde, il le disait très clairement. En plus, ChatGPT, il s'appuie sur plein d'auteurs pour écrire.
Oui, bien sûr.
Donc, ça vaut rien. C'est...
Et en même temps, il appauvrit, voire il gomme toute la vitalité intérieure d'une personne.
Ben exactement, oui. Bah oui, c'est ça.
Ça, c'est très très grave. Je veux dire, vaut mieux écrire un mauvais poème et l'écrire.
Oui.
Une mauvaise nouvelle aussi.
Oui.
Mais plutôt que de confier à une machine une œuvre qui n'est pas la vôtre.
Ouais, c'est sûr. Ouais, complètement.
Alors, je voudrais en revenir aussi. En pensant à l'émission, à une chose dont on avait parlé pour la préparer, je voudrais revenir sur, pour les vies antérieures, sur un dilemme que j'ai, hein, parce que j'avais lu il y a pas mal de temps, il y a une vingtaine d'années, j'avais lu les manuscrits de la mère morte,
oui.
Millar Burroughs.
Ouais.
Alors je me suis demandé, il faudrait que je le relise, mais c'est assez long. Hein. Si le maître de justice, si Jésus-Christ n'est pas la réincarnation du maître de justice.
Oui, c'est ça, on en a parlé, oui. Vous m'aviez parlé de ça, oui.
C'est-à-dire que, comme, à mon avis, l'histoire se construit par... l'histoire est entièrement écrite. Sur la terre. Hein.
Mmh.
Et donc, les personnages qui apparaissent à diverses époques sont peut-être liés. Hein. Et je ne veux pas dire que le maître de justice 176 avant Jésus-Christ, enfin, on en parle à ce moment-là, bon, et puis Jésus-Christ lui-même sont liés.
J'entends bien. Mais oui, comme Philippe K. Dick le disait, et puis je l'ai lu dans d'autres trucs, et c'est les plans de, oui, d'une manière ou d'une autre, c'est ce que je, il y a plein de futurs possibles, plein de futurs qui sont envisageables, qui sont, Mais il n'y a qu'un avenir pour les personnes. Il y a plein de choix possibles à tout moment. Là, maintenant, je pourrais me lever et puis claquer la porte.
Oui.
Je pourrais me lever, aller me faire un verre d'eau, aller me faire un café. mais je le fais pas. Mon choix, c'est de rester là et à m'entretenir avec vous.
Oui.
Et je faisais plus ce qu'on vous disait, mais...
À propos du maître de justice et de...
Oui, et donc oui, que le créateur a un plan. Pas dans la précision. Il peut pas. Je pense pas, c'est pas possible à mon avis. Mais il sait si il veut arriver à un point, il y aura un plan. Regardez, je vais reprendre mon exemple parce que je le connais et j'en connais pas d'autres. L'accident, le coma que j'ai fait. Si ça m'est arrivé, c'est qu'avant ce coma, j'étais pas du tout, mais pas du tout. J'écoutais pas de musique, par exemple. Et depuis, bon, bah oui, j'écoute la musique, ça s'est développé à partir de là. Donc, comme j'étais avant, j'aurais pas pu, si le créateur avait décidé un plan pour moi, eh ben, je ne prenais pas la direction de ce plan. Donc, il fallait me rappeler. Alors, mon avenir était tracé, mais il fallait, j'employais pas la bonne direction. Et je pense que là, à ce moment, il est intervenu.
Correction.
Voilà, cette force est intervenue afin que je me retrouve dans une direction plus probable, comme il l'avait peut-être décidé. Mais tout ça, c'est des lectures, c'est des réflexions que je donne. C'est pas, c'est une vérité, c'est ma vérité. Mais c'est loin de moi l'envie de l'imposer. C'est, puis bah de toute façon c'est mon émission de radio en plus hein, donc je fais ce que je veux hein.
Je voudrais revenir sur quelque chose et puis faire la jonction avec ce dont on parle, c'est-à-dire enfin avec la ligne directrice qu'on a prise.
Ouais.
C'est-à-dire que on a fait beaucoup d'émissions sur les ovnis.
Hein. Ouais, beaucoup, ouais. Ouais, ben bah ouais, peut-être pour que justement j'ai deux faces, oui.
Voilà, c'est ça,
ouais.
Fassiez la bifurcation.
Ouais, c'est ça. Ouais, exactement, peut-être.
Alors, dans les émissions, quand on a dit, vous savez, là-haut, ils vous connaissent.
Ils... Oui.
Moi, j'ai avancé des preuves hein, dans une des dernières émissions que nous avions faites. Mm.
Mais ils nous connaissent même. Pas ils me connaissent moi particulièrement, ils nous connaissent tous.
Mais ils vous connaissent même tout au long de votre vie.
Je oui, c'est ça.
Je vais vous donner un exemple. Bon, j'avais rencontré, j'avais parlé des personnes que j'avais rencontrées. Et j'étais resté quoi quand l'une d'entre elles m'a dit, ah bah oui, du temps où vous déguisiez votre chien. Ça a remonté à des lustres, ça.
Ouais.
Comment savait-elle ça?
Ouais, c'est vrai.
Alors, bon, c'est un exemple un peu souriant, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est valable pour les ovnis, il est valable aussi pour le royaume, hein, au sens strict du terme, hein. C'est-à-dire... mon ami qui m'avait dit un jour, mon ami franc-maçon,
oui, oui.
Pas un cheveu dessus ta tête qui ne soit compté.
Oui, c'est ça.
Ah ben,
on nous connaît par cœur. Mais...
C'est-à-dire que là, on arrive à un télescopage, c'est-à-dire que la création. conseille, nous conseille, nous, nous inspire, etc., tiennent à notre vie. Allô ?
Oui, je vous suis, oui. Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas... Cette phrase toute faite qui est tellement vraie, il n'y a pas de hasard. C'est...
Ah oui.
Les rencontres qu'on peut faire... L'autre jour, j'emmène mes enfants à l'école en vélo le matin, il pleuvait. Et puis, je reviens rapidement à la maison. Et puis, je glisse et je tombe. Et je me suis dit, alors je m'enlève, j'ai encore mal à la main là, mais il n'y a pas eu de mort, j'ai tapé dans personne, je suis tombé tout seul, on s'en fout comment je suis tombé, mais après je me suis dit, mais pourquoi? Comment ça se fait? À quoi je pensais? Et donc, je pensais pas à grand chose de mal pourtant, mais je me suis dit que cette pensée que j'avais, que j'ai oubliée maintenant, ça servait à rien que je continue dans cette direction, que je me pose ces questions, que ce à quoi je pensais, il fallait que j'arrête d'y penser. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ça comme un signe. Après, est-ce que c'était ce signe-là, ou alors est-ce que c'est comme les scientifiques se disent, ben non, t'as tourné sur de la peinture de passage piéton. Ça, c'est logique que tu tombes. Ah ben oui, c'est logique. Mais au-delà, après, pour se demander pourquoi. Moi, mes enfants, pourquoi? Parce qu'il a plu. Non, mais le scientifique, il a toujours une réponse à tout. Mais mes enfants, c'est pareil. Ils me demandent, ils sont par rapport à la création de l'univers. Et, mais en fait, je sais pourquoi le soleil s'est créé. Ah, je dis, pas bien. Alors, ils me disent, mais parce qu'en fait, c'est plein de trucs qui sont machinés, qui sont télescopés. Puis la planète Terre, c'est quand la Lune, elle a fait. Et je dis, mais à la fin. Je leur demande pourquoi, et pareil même quand l'univers s'est créé, mais pourquoi est-ce que toutes ces pierres se sont entassées les unes dans les autres pour faire des planètes par exemple, comment ça se fait? Mais parce qu'elles se sont télescopées. Mais pourquoi? Quelle force leur a donné la permission de se télescoper? Et pourquoi cette pierre là avec cette pierre là qui allait donner naissance à l'eau, qui allait faire la planète Terre, qui allait donner naissance à l'eau, seule planète dans le système solaire, qui peut accepter des formes de vie, en tout cas à notre connaissance, parce qu'il y a l'eau.
Le divin.
Hein? Le divin, ben oui, c'est ça, c'est le créateur, mais les enfants, je leur dis, mais bon, après, ça leur échappe, ça leur viendra plus tard, si on continue à tous vivre ensemble, ils verront bien que... Il n'y a pas de hasard, justement. J'en suis certain. Tout ce que je peux emprunter comme chemin, penser, réfléchir, faire, je réfléchis un maximum avant. Rares sont les fois où j'y pense pas avant.
Non, mais vous avez raison.
Bonjour. Oui. Exactement.
C'est un projet.
Ouais.
C'est un projet pour nous. C'est-à-dire que la créature que l'humanité représente par rapport à son créateur, c'est un projet.
Oui.
C'est-à-dire qu'il tient à la réaliser de bout en bout. Il tient à faire de nous... a créé à sa ressemblance. Donc, d'une part, on doit aboutir à sa ressemblance et en même temps accomplir ce qu'il désire que nous accomplissions.
Oui, bien sûr. Bah oui, ça c'est très important, oui. Et la foi, faut croire en soi, faut croire en les choses justement qui peuvent arriver. Il faut, y a pas de hasard. Mais bon, après dire ça à des gens qui n'ont pas été élevés dans ce mode, qui ont une éducation vraiment vraiment contre ça, contre la religion, contre Dieu, contre l'existence d'une force sur... Vous savez, moi, comment j'en suis venu à croire en ce côté invisible, en cette force qui dirige le monde. Vous savez comment ? Par Hollywood, que je décris sans arrêt comme étant la pire chose qui puisse exister, une des pires choses, c'est la guerre des étoiles. C'est par ça que j'ai compris qu'une force était là et nous accompagnait. Alors, bien sûr, après Hollywood, je comprends bien, je vais pas faire venir le vase qui est devant moi, le pichet d'eau, je vais pas le faire venir à moi. C'est pas ça. C'est bien au-delà, c'est bien au-dessus, c'est transcendantal. Enfin, c'est le truc, waouh, qui... Et donc, c'est par la guerre des étoiles que j'ai réussi à... Que j'étais un fervent adepte avant mon coma, d'ailleurs.
Pour y répondre.
Oui.
Et donc...
Mais, ouais, et donc, bah, moi, toutes ces émissions qu'on a pu faire tous les deux, que je peux, après, de mon côté, en solo, donner, c'est... J'espère, des fois, j'arrive même à penser que des... personnes sont touchées par ça et...
Oh ben, sans doute.
Et change, parce que le but aussi de ces émissions, je pourrais dire quasi factuelles, c'est des faits ésotériques, peut-être des faits invisibles.
Je peux donner une anecdote.
Ouais,
qui est arrivée il y a quelques mois.
Ce qui change vraiment, quoi.
Américaine qui avait une universitaire qui avait écrit un livre que j'ai là d'ailleurs, bon, c'est pas sorti, sous hypnose, ses étudiants avaient raconté leur entrée dans le fœtus de la mère.
Ah oui, vous m'avez parlé de ça aussi, oui. Oui, oui.
Mais moi, je ne voyais pas le titre à ce moment-là.
D'accord.
Et elle avait son marque-page contre le titre.
Mmh.
Alors, le tramway avançait, j'allais descendre, et puis au moment où je suis descendu, elle a baissé son marque-page, c'était le même livre.
Ouais.
Et donc, je lui ai dit, vous savez, ce livre, c'est formidable.
Oui.
Moi, parce que c'est un des rares que j'ai rencontré, moi, sur qui décrit avec précision la descente de l'âme et son installation dans le corps, dans le vulfecté.
Oui, oui.
Parce que l'âme va ensuite prendre le contrôle il va contribuer à la construction du petit corps, hein, du fœtus.
Oui, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Et c'est là, justement, c'est là que l'âme qui va être envoyée dans ce corps et dans cet esprit, mais plutôt dans ce corps, l'âme peut évoquer l'importance de l'éducation, l'importance des parents, parce que si pendant la femme enceinte, si pendant sa grossesse, elle a pu faire des choses mauvaises, par exemple, là je pense à un truc matériel, mais à boire de l'alcool. Et que avant déjà c'était une personne avec un esprit mauvais. Peut-être, je présume pas, je donne juste une possibilité. Eh bien là, l'enfant va être l'enfant de sa mère, quoi. Ça va être bon. On sait que trop d'alcool pendant la grossesse peut casser des cellules. De l'enfant. Ça, c'est certain, on le sait, c'est scientifique même. La raison scientifique, ce sera ça. Ah bah oui, mais vous avez bu de l'alcool pendant votre grossesse. Donc, si votre enfant, il est comme il est, voilà la raison. Mais après, la raison invisible dont on n'a pas le droit d'en parler. Enfin, on a le droit d'en parler, mais quand on en parle, c'est pas forcément écouté. La remise en question de la maman, de la mère, du père aussi peut-être, hein, va pas forcément. Mais là, le père, c'est pas par rapport à l'alcool, mais c'est par rapport à un état mental. Ça va pas être. On va dire, ah ben oui, mais bon, c'est pas ça. Mais c'est complètement ça, car l'état mental dans lequel on a été mené pour boire de l'alcool, par exemple, ou quoi que ce soit d'autre. C'est ça qui aura mené l'enfant à être à recevoir
cette malédiction.
En un sens cette malédiction, mais ensuite si justement l'enfant, un autre exemple, l'enfant qui naît avec une malédiction, malédiction c'est un mot un peu fort, mais oui.
Exprès, hein.
Oui, mais c'est bien, comme ça on comprend bien, c'est extrême cette malédiction. Peut-être que lui, par cette malédiction, va faire changer ses parents. Et lui, il va vous prendre la vie dans un autre sens, et emmener ses parents et son entourage dans une autre direction, et la direction justement de la fin eschatologique, vers la fin qui pourra amener le meilleur, quoi. Enfin, le meilleur, c'est pas possible, mais...
À la purification.
Voilà, purification, c'est ça. Bien vu, monsieur UFO.
On avait traité aussi avec Francis de la...
Francis, je le dis aux auditeurs, est une autre personne qui est concernée par ces obsessions dont cet entretien. Et voilà. Je présentais Francis.
Oui. Et puis, la présence, l'omniprésence actuellement des ovnis, c'est-à-dire... presque une préparation à, non pas seulement une rencontre, mais à un dévoilement.
Mmh.
Parce que j'ai donné des exemples où je me suis senti tout petit par rapport à deux personnes parce qu'on me racontait ma vie.
Oui, oui, oui.
Et puis c'était pas des micros dans ma chambre ou des caméras.
Mmh. Oui. Oui, c'est des choses que personne ne connaît à part vous. Et quand on vous remet ça en face, comme ça, oui.
Oui.
Des allusions qui peuvent être.
Oui. Oui.
Très bien.
Donc, mais c'était aussi une illustration du pouvoir céleste sur sa créature. Hein.
Hmm.
C'est ça. C'est-à-dire que les gens devraient, en quelque sorte, tenir compte. Bon, là où je veux en venir, c'est l'essence de la morale, hein, dans la vie.
Oui.
C'est-à-dire croire qu'on ne nous voit pas, croire qu'on ne nous entend pas, qu'on ne nous entend pas, c'est une erreur.
Oui, complètement. En plus, Philippe Cadic, là, on parlait dans mes lectures. C'est... Oui, bah là, on est en plein dedans.
Ah oui.
Exactement.
Oui.
Bon, on a peut-être assez vu la réincarnation pour cette émission.
Oui.
Qu'en pensez-vous?
Et les vies antérieures.
Ouais.
Qui descendent pour contribuer à l'histoire humaine.
Oh, where have you been? My blue-eyed son, and where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways.
had stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain is gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. So guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rain that's gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty. Where the pellets of poison are flooding their waters.
where the home in the valley meets the damp, dirty prison. And the executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where the souls are forgotten. Where black is the color, where none is the number. And I tell it and speak it and think it and breathe it. And reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking. But I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard. And it's a hard, it's a hard rains are gonna fall.
Hard rain's gonna fall. La pluie va tomber. Et là, la pluie qui tombe, la pluie dure qui tombe, bah, c'est les guerres. C'est Monsieur UFO qui m'a proposé d'envoyer ce titre. Et la pluie qui tombe, c'est le climat. C'est le climat de nos vies. Ouais. C'est pas... Y a pas de hasard.
What have you seen? I'm trampoline. C'est tous les jours la berge russe à 14 avec Helmut.
Helmut Trotz.
Jack FM quand tu le peux. Fortune à 21h30 avec le saut dans l'inconnu, le saut dans l'inconnu, le saut dans l'inconnu. What have you seen on trampoline? What have